fly pool on triple breeds. Not hitting the briars out by the quick mud, staying away from the main roads, passing out wolf tickets downwind from the bloodhounds. Not pulled on dribbles breeds. Not lay by a cypress as quiet as a stone till the bleeding stopped. Not blew the weather vane off some old roadhouse. Not pulled a fire in the skeleton backseat of an old tucker. Not pulled on dribbles breeds. Not spanked cold red mud where the hornet stung deep. Not tossed in the ditch in a restless sleep. Not pulled on dribbles breeds. I hung my rain-soaked jacket on some old barbed wire and poured cool, rusty water on my miserable fire. Not pulled on troubles breeds. The creek was swollen by daybreak, and I could just barely see.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé.
Salut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 18 mai 2020, et le premier Canu Info déconfiné depuis le confinement.
Et on est ravis d'être là. À l'international, aujourd'hui, on commencera par un petit point sur la répression qui se poursuit en Algérie. Ensuite, on aura le droit à une interview sur la situation des Soudanais en Égypte. Et pour finir à l'international, on parlera de cette décision bizarre du Bangladesh de planquer les Rohingyas sur une île inondable.
Puis au national, on vous parlera pour commencer de la gestion opportuniste de l'immigration par l'État pendant la crise. Puis on passera un petit bilan policier du confinement et du nombre de victimes de la police. Ce qui nous permettra d'enchaîner ensuite sur les nouvelles mesures antisociales du gouvernement. Puis on passera à une autre mesure adoptée par le gouvernement récemment, la loi Avia, hein, qui fait polémique. Et pour terminer, au national, on vous parlera plus généralement du droit de manifester qui est de plus en plus menacé aujourd'hui en France. Et pour terminer cette édition déconfinée du Canu Info, on vous parlera d'une entreprise de Vénissieux qui est menacée de fermeture.
Et on commence tout de suite avec l'Algérie.
Alors en Algérie, la répression malheureusement continue, puisque c'est le journal satirique algérien El Manchar qui a anticipé les menaces d'une censure de la part du gouvernement en place d'Abdelmadjid Tebboune en disant qu'ils arrêteraient toute publication. Cette nouvelle, elle est révélatrice de ce mouvement répressif qui restreint de plus en plus les libertés d'expression et qui renforce l'autoritarisme de l'État algérien. Le Covid-19 arrive, il faut le dire, au bon moment pour ce gouvernement qui, sous prétexte de lutte contre la crise sanitaire, amplifie sa répression et criminalise de plus en plus ce mouvement, le Hirak, ce mouvement donc de contestation qui dure depuis plus de un an, qui a lieu deux fois par semaine. Les derniers mois ont été en effet marqués par le flicage des réseaux sociaux, par la multiplication des incarcérations de militants, mais aussi de syndicalistes et surtout de journalistes qui sont placés massivement en détention provisoire, parfois en prétextant qu'ils sont au service de nations étrangères. Revenons donc un peu sur la chronologie de ce mouvement du Hirak et essayons d'étudier un peu les effets que la pandémie a eu sur celui-ci. Pour rappel, ce soulèvement massif a commencé en février 2019 dans plusieurs régions en Algérie, mais aussi dans le Rif marocain et au Liban. Au rythme, on l'a dit, de deux manifestations par semaine, une le mardi qui est surtout étudiante et surtout massive, celle du vendredi. Ce mouvement pacifique s'en est d'abord pris au thème de la corruption généralisée en dénonçant les trafics, les magouilles de la mafia au pouvoir. Ce mouvement est né de la colère aussi de voir le président Bouteflika briguer un cinquième mandat présidentiel. Et les manifs ont commencé surtout dans l'Est algérien. Ce mouvement est porté avant tout par la jeunesse, ce qui est nouveau. Jeunesse qui est rassemblée sous la détestation commune du régime militaire en place, qui est tenu pour responsable de l'échec du projet national conçu pendant à l'indépendance. Mais ce mouvement se rassemble aussi sur une opposition globale aux différents partis en place, aux différentes alternatives sous forme de partis. Et ce qui est absolument original, c'est qu'il a dépassé les fractures héritées de la décennie noire, donc de la guerre civile qui a eu lieu entre 90 et 2000, qui a divisé laïcs et religieux. Ce mouvement aussi, il est particulier parce que sa stratégie, elle est non violente, ce qui est quand même pas non plus dans la tradition du mouvement social algérien, puisque seulement en 2017, l'État algérien a compté 13 000 émeutes dans tout le pays. Et ce mouvement, surtout, il a gagné, il a eu des victoires, et la première grosse victoire, ça a été la démission du président Bouteflika, qui quand même était président depuis 20 ans, démission qui a eu lieu le 2 avril 2019, et qui a été pourtant remplacé par le général Ahmed Gaïd Salah, un général de l'armée qui représente cette mainmise policière et de l'armée sur l'appareil étatique. Une deuxième victoire, ça a été le report de deux élections, la première de Bouteflika avant sa démission, et une deuxième, le 4 juillet. Et des élections qui ont été annulées par des manifestations massives un peu dans tout le pays et contre cette mascarade électorale qui voulait récupérer le mouvement de contestation. En novembre, on a eu un point fort des manifestations qui ont été monstrueuses contre l'annonce des lois sur les hydrocarbures où il s'agissait encore de céder l'exploitation des hydrocarbures à des multinationales énormes. C'était une opposition aussi à la loi Finance 2020 qui, là aussi, c'était des plans d'investissement étrangers dans le pays qui le dépossédait de la plupart de ses ressources. Ce mouvement qui est donc composite, puisqu'il y a des éléments progressistes, des syndicalistes, mais aussi des islamistes, des libéraux, rejette globalement, on l'a dit, le système de partis et refuse de se laisser représenter par tout parti et tout leader. Le 12 décembre, on a un tournant, puisque il y a eu des élections qui n'ont pas pu être empêchées cette fois-ci, malgré les appels à la grève, malgré les manifestations, qui ont donné lieu à l'élection de Tebboune, un ancien ministre de Bouteflika qui joue la carte de la conciliation, de la négociation, etc., etc., même si se maintiennent les procès, la propagande et le système clientéliste. En janvier, qui est la dernière étape avant le confinement, on a un retour des grosses manifestations, un peu moins fort qu'en novembre, mais tout de même, suite à l'annonce de l'exploitation, cette fois-ci, du gaz de schiste, en partie par la multinationale Total. Alors, qu'est-ce qu'a fait le confinement à ce système, à ce mouvement de contestation, qui est quand même en partie révolutionnaire? Eh bien, avec l'apparition du virus et de la pandémie, le gouvernement en a surtout profité pour affaiblir le mouvement, c'est pas nouveau, ça se fait aussi dans d'autres pays, en individualisant la contestation et la répression, en interdisant les manifestations, comme en France, en intimidant les militants par des convocations massives aux comico et avec des condamnations de plus en plus fortes à la prison suite à toute critique publique ou dans les réseaux sociaux. En tout cas, force à eux, force au peuple algérien, et on y croit, la chute du régime viendra.
On enchaîne avec une musique ?
On enchaîne effectivement avec une musique, avec l'hymne qui a porté un peu ce mouvement révolutionnaire. La chanson, le morceau s'appelle Liberté et il a été composé par le rappeur Soul King.
Bonsoir tout le monde. Du coup, l'idée là, c'était de pouvoir parler aussi des conséquences économiques de la crise du Covid.
La musique, vous aviez dit.
Alors, c'est pas ça.
Le morceau viendra donc plus tard.
Non, on le met tout de suite.
On le met.
notamment en Afrique, économique entraînée par le corona, de manière disproportionnée les populations.
On le mettra plus tard.
Et on enchaîne donc avec le sujet suivant.
Donc l'Égypte,
qu'on avait commencé en fait à lancer.
Qu'on avait commencé à lancer ? Ah, c'était ça.
C'était l'audio, c'était donc le bon audio.
Et tu peux l'introduire ?
D'accord. Ouais, je sais pas si
vas-y. Vas-y, lance-le.
Appeler les organisations internationales à réagir face à la situation dans laquelle elles se trouvent. Du coup, l'idée, c'était de parler un peu de leur mobilisation. Mais d'abord, on va donner quelques éléments de contexte.
Oui, bonjour à tout le monde. Les Soudanais se représentent en Égypte depuis plusieurs années, mais surtout pendant le régime d'Al-Bashir, quand il y a des guerres qui touchent les pays et le polo par des régions soudanais. Pour cette raison, il y a beaucoup de Soudanais qui sont fuyés du Soudan. Ils sont installés en Égypte. C'est des gens, ils occupent tout de la région de Darfour et de Jubal-Nouba. Et il y a beaucoup de Soudanais aussi qui sont fuyés du Soudan pour les raisons économiques. En sachant que ces dernières années, la situation économique au Soudan est devenue très, très, très difficile. Aussi, il y a beaucoup de militants qui sont fuyés à la répression de l'État pendant l'époque d'Al-Bashir. Ils sont allés en Égypte en espoir d'installer là-bas ou bien régulariser dans un autre pays. Pour cette raison, on se trouve qu'il y a beaucoup de Soudanais aujourd'hui. On compte 250 000 Soudanais en Égypte ou bien plus. Et depuis l'épidémie, au début de l'épidémie, le gouvernement soudanais a décidé de fermer ses frontières. Pour cette raison, il y a beaucoup de Soudanais qui se retrouvaient en Égypte sans pris en charge ni par le gouvernement soudanais ni par le gouvernement égyptien.
En effet, depuis les années 1950, l'État égyptien refuse de prendre en charge les réfugiés sur son territoire. C'est pour ça qu'il a signé une convention avec le HCR, qui est l'institution de l'ONU, pour prendre tout en charge. Du coup, les millions de réfugiés de Syriens, Yéménites, Soudanais, Érythréens, Érythréennes, Somaliennes, dépendent entièrement des organisations internationales pour tous les services de base, allant des papiers à l'aide alimentaire, à l'aide au logement. Et tous les gens qui sont sans papiers en Égypte, ils n'ont pas accès aux hôpitaux publics et donc ils doivent avoir recours aux hôpitaux privés qui tarifent en fait de manière excessive les étrangers et les étrangères. Donc ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui n'ont aucun accès aux soins. C'est un peu pareil pour les logements. En Égypte, il y a un espèce de système des restes du régime socialiste qui garantissent un accès au logement facile pour les Égyptiens, alors que les étrangers doivent payer leur logement 4 à 5 fois plus cher. Et enfin, c'est une société dans laquelle il y a énormément de violence et de discrimination raciste, ce qui décourage beaucoup de personnes d'avoir accès à d'autres services publics comme les écoles. Et en fait, on est dans un contexte où le gouvernement instrumentalise sans cesse la question des réfugiés en attisant la haine xénophobe et raciste contre eux, en lançant par exemple des campagnes de diffamation, ce qui aboutit à des arrestations et des détentions arbitraires des personnes qui ont des papiers ou qui n'ont pas de papiers, et surtout des militants et militantes qui essayeraient de dénoncer l'incapacité du gouvernement ou l'incapacité de l'UNHCR, donc des institutions de l'ONU. Donc là, on est en contact avec une d'entre elles qui va nous raconter un peu comment ça se passe depuis le début du Covid, parce que la situation s'est en fait beaucoup aggravée pour ces populations déjà précarisées et marginalisées. C'est Amira Limbo qui elle-même se définit comme militante auprès de la communauté soudanaise et qui notamment fait partie du comité des réfugiés et réfugiées soudanaises en Égypte, qui a commencé à auto-organiser la réponse populaire face au Covid.
Salut Amira, nous avons trois questions à vous poser. La première, quelle est la situation début de l'épidémie et quelle est la réaction du gouvernement égyptien face à cette situation et quelle est la réaction de la communauté civile face à cette situation aussi.
Allô.
Bon après-midi. La situation ici pendant le Covid-19, après la décision des autorités égyptiennes de tout fermer et d'interdire les déplacements. Cette décision était assez choquante pour la plupart des migrants et réfugiés. Parce que la plupart d'entre eux sont des travailleurs journaliers. Donc ils étaient inquiets sur comment est-ce qu'ils allaient pouvoir couvrir leurs besoins de base et avoir un revenu basique. Et sur la manière dont les services médicaux égyptiens allaient fonctionner. Ils savaient qu'ils ne seraient pas traités de la même manière que les Égyptiens. De l'autre côté, l'UNHCR a annoncé temporairement la fermeture de tous ses services. L'impact de cette décision et de cette crise sur les vies des personnes réfugiées est que la plupart des gens de nos communautés ont perdu leur travail, notamment parce qu'ils travaillaient comme travailleurs journaliers dans les entreprises. Ils n'ont pas de travail fixe. Ils travaillaient aussi dans les maisons comme domestiques. Et comme ils n'avaient pas de travail permanent, ils ne peuvent plus s'appuyer sur leur travail pour assurer leurs besoins quotidiens après que cette crise ait commencé. La plupart des employés ont été virés de leur travail, donc ils n'ont plus de revenus. Et le résultat, c'est que les gens sont aussi expulsés de leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Donc beaucoup vivent dans la rue, doivent mendier dans la rue ou essayent tous de s'entasser dans les maisons pour vivre ensemble dans les maisons. Donc maintenant, nous, les militants, on essaye de lancer plein d'initiatives locales pour soutenir les gens ici. On essaye de trouver un peu d'argent et d'en demander auprès de nos familles, de nos amis, juste pour pouvoir faire des paquets de nourriture. Mais le problème, c'est que tout l'argent qu'on arrive à collecter, c'est jamais assez, même pour les besoins les plus simples et les plus basiques. Ici, on a 40 000 personnes réfugiées en Égypte. Juste les Soudanais et Soudanaises, sans compter les autres communautés. Le nombre des personnes réfugiées et demandeurs d'asile en tout, c'est 200 000 personnes au moins. Et si on considère tous les migrants et migrantes, pas seulement les réfugiés, on est à plus de 5 millions qui sont tous dans la même situation. Et l'autre problème qu'on rencontre au niveau médical, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus en Égypte pour se faire soigner, beaucoup de personnes soudanaises. Et quand elles sont arrivées, les institutions médicales ne répondaient plus. Du coup, elles n'ont pas pu être soignées. On a par exemple 4 cas de personnes qui ont le cancer qui sont venues exprès en Égypte pour avoir accès aux soins médicaux. Et personne ne leur répond. Tous les hôpitaux refusent de les prendre en charge. Et même l'ambassade soudanaise ne les soutient pas. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des gens qui essayent de retourner au Soudan de manière irrégulière en passant la frontière, ce qui est extrêmement dangereux. Et du coup, on vous remercie beaucoup parce qu'on espère qu'il y a des gens qui pourront nous soutenir ailleurs. Et du coup, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci Amira. À toi de nous avoir envoyé ces informations. Ce qu'on voulait juste ajouter, c'était que, au-delà du coup de la mobilisation des proches et des familles, etc., on a aussi lancé une petite campagne de soutien et que vous pouvez retrouver. Notamment, il y a une cagnotte qui permet juste aux militants et militantes d'organiser le soutien sur les besoins les plus basiques sur place. Donc, c'est sur cotizup.com et la cagnotte s'appelle Refugees. In-Egypt. Donc voilà. Et ils ont aussi lancé un hashtag pour mettre pression sur l'UNHCR à travers les réseaux sociaux. Leur hashtag, c'est Save Sudanese Refugees Egypt. Donc voilà la manière dont ils se mobilisent au temps du corona. Merci à tout le monde.
Voilà, c'était donc une interview sur la situation des Soudanais en Égypte. Excusez-nous pour le petit bug qui est juste avant, mais on continue à l'international avec un sujet sur le Bangladesh.
Donc voilà, on va parler des Rohingyas que vous les connaissez, sûrement parce qu'ils se font massacrer en Birmanie par l'armée birmane. C'est une ethnie majoritairement musulmane, mais pas seulement, et qui n'est pas reconnue comme birmane par la majorité de la population birmane, pour qui être birman, c'est être bouddhiste. Et donc on les considère comme apatrides. On ne va pas revenir sur les persécutions qu'ils subissent parce que ce n'est pas le sujet que l'on aborde aujourd'hui, mais il faut quand même dire que ce sont principalement des massacres purs et simples. Face à ces persécutions, ils sont nombreux à avoir fui au Bangladesh et même à continuer à fuir. Et depuis un an, cette fuite s'est accélérée, au même titre que les persécutions, et des déplacements auraient au moins atteint 1 million de personnes, au minimum. Le résultat en est qu'il y a des camps de Rohingyas au sud du Bangladesh et ils ne sont pas forcément bien accueillis. Ils vivent dans des camps de fortune où, comme c'est le cas partout où les gens vivent entassés, avec un accès à l'eau courante restreint, les fameuses mesures barrières anti-Covid sont impossibles à respecter. Pour cette raison, ils sont en danger face à la maladie, déjà, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il est prévu de les déplacer sur une île appelée l'île qui flotte, une île inondable, sous prétexte de mesures de sécurité contre le coronavirus. Plus de 300 personnes y ont déjà été déplacées au début du mois et il est prévu d'en déplacer d'autres. Alors, jeudi dernier, 2 cas de coronavirus ont été dépistés en lien avec un des camps. L'un est un réfugié Rohingya, l'autre est un Birman habitant la région. Ces personnes, ainsi que celles avec qui ils ont été en contact, ont été mises en quarantaine, une procédure simple qui fait ses preuves. Mais ces cas servent actuellement d'argument, alors même que les premiers déplacés sur l'île l'ont été avant que ces cas soient connus, pour le parquage des camps entiers de Rohingya sur cette île inondable. Disons-le tout de suite, ça n'a aucun sens du point de vue sanitaire. D'abord, il n'y a aucune raison que ce soit particulièrement les Rohingyas qui soient contagieux. Ensuite, isoler des populations contre une contamination, ça marche si on isole des personnes malades, des personnes saines. Là, il s'agit d'isoler indistinctement tout un groupe sans ne rien savoir sur leur état de santé. Évidemment, s'il y a des malades, ils contamineront tout le monde et ça ne sauvera pas spécialement les Birmans puisque le virus est déjà en Birmanie. Ce qui est plutôt en jeu ici, c'est une tentative du gouvernement du Bangladesh de se débarrasser de ces réfugiés, qu'il perçoit comme un problème. En vérité, le projet de les envoyer sur cette île inhabitée et où des cyclones sont fréquents remonte à 2019, mais n'avait pas pu être mené à bien tout simplement parce que les Rohingyas ne voulaient pas y aller et que des ONG s'y étaient fermement opposées. Cette île de 6000 hectares perd quand même 2000 hectares en marée haute et depuis avril, c'est d'ailleurs la saison des moussons au Bangladesh. Normalement, l'accès à cette île est interdit par l'armée pour des raisons de sécurité et les habitants d'en face de l'île disent ne pas oser y mettre les pieds. Alors, des mesures de façade sont prises pour calmer les oppositions, comme la construction d'une digue dont on ne saura pas l'efficacité, mais concrètement, cette île ne sera pas aménagée correctement, ne serait-ce parce qu'il n'y aura pas d'hôpital sur place et puis il faut savoir que la traversée est facilement impossible par mauvais temps. Donc bref, on l'a remarqué, des tonnes et des tonnes de fois, le Covid-19 sert surtout à mettre en œuvre ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et c'est ceux qui galéraient déjà qui en font les frais. Est-ce qu'on écoute une musique maintenant ?
Eh bien, écoutons-la, cette fameuse musique. C'est donc le morceau de Saul King qui s'appelle Liberté et qui est l'hymne du coup du
mouvement algérien.
Algérien, Irak.
Tout noir, il n'y a plus personne que des photos. mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma top, emmenez-moi là-bas.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi et c'était...
Eh ben c'était Soul King, le morceau Liberté. Et on passe tout de suite au National avec un sujet sur une immigration, la gestion opportuniste de l'immigration par le gouvernement français.
En effet, cynisme et opportunisme, voilà les deux mots par lesquels on peut décrire des décennies de politique migratoire en France. Alors ces dernières années, on a plutôt l'habitude de voir l'immigration associée à des départs raciaux, culturels ou identitaires, avec toujours en toile de fond les mêmes politiques répressives. Une traque des étrangers qui permet de maintenir une masse de sans-papiers, prêts à occuper les emplois les moins bien payés, les plus dangereux et les plus dégradants. Toutefois, la crise sanitaire en cours, doublée d'une crise économique, voit se réactiver une gestion purement économique et utilitariste de l'immigration. Concrètement, les politiques et technocrates remobilisent en ce moment le vieux fantasme de l'immigration choisie et non subie, donc c'est-à-dire organiser l'immigration en fonction des besoins des entreprises ou même des services publics. Alors, on a tout d'abord observé ce phénomène dans l'agriculture, où le manque de bras dû à la fermeture des frontières a été pointé du doigt très rapidement. Un jeudi 14 mai, justement, le gouvernement a confirmé que les travailleurs étrangers, même ceux hors espace Schengen, détenteurs d'un contrat de travail, pourraient déroger à la fermeture des frontières et venir prêter main forte aux agriculteurs français. Une mesure taillée sur mesure pour l'agro-industrie, dont les besoins pour les récoltes vont doubler sur le mois à venir, en passant de 45 000 à 80 000 personnes. La France n'est pas la seule concernée, puisque l'Italie s'apprête elle aussi à régulariser près de 200 000 travailleurs sans papier, alors qu'il y a quelques mois, Salvini et l'État stigmatisaient à longueur de temps les mêmes immigrés, ou que des travailleurs sans papier, ou qu'on voyait même aussi des travailleurs sans papier syndiqués se faire assassiner. La situation est également la même pour les professions plus fortement diplômées, hein. Enfin qualifiés, surtout en cette période de pandémie où le manque de personnel de santé est flagrant. Outre le fait de combler les vides, ces professionnels de santé étrangers sont soumis à des conditions de travail encore plus éprouvantes que leurs collègues français. Ils doivent faire plus d'heures, ont moins de repos, sont moins bien payés et surtout ne sont pas reconnus à la valeur de leurs compétences par rapport à leurs collègues français. Alors, les systèmes de santé pourtant des pays du Nord reposent largement sur ces praticiens venus des anciennes colonies pour la plupart. Hein, en France, c'est quand même 12% des médecins actifs qui sont nés à l'étranger. Donc, exit donc les discours sur les dangers identitaires et sécuritaires de l'immigration, l'économie a besoin de bras. Mais on se doute bien qu'une fois que leur présence ne sera plus nécessaire, en particulier pour ceux qui occupent les emplois les plus précaires, l'État cherchera à nouveau à les expulser. Et en guise de conclusion, justement, j'aimerais faire une forme d'autocritique. Est-ce qu'à gauche, on sait vraiment qui a entériné cette conception purement utilitariste de l'immigration dans la France contemporaine ? Eh bien, c'est un communiste, en fait. C'est Ambroise Croizat, le fameux rédacteur, l'inventeur de la sécurité sociale, qui a aussi été rédacteur des ordonnances de 1945 qui organisent l'immigration. Alors, c'est la célébration d'Ambroise Croizat, du coup, là, ce que je vais me pointer, c'est qu'elle se fait souvent sans nuance. Hein, on ne parle pas de cet aspect de sa vie politique. Et ça met en perspective aussi l'incapacité des mouvements en France de gauche à se détacher aussi de l'échelle nationale, hein, à une époque où le capitalisme est plus que jamais mondialisé. On pense lutte des classes, et ça, c'est ce qui était le PCF avant et reste toujours le PCF aujourd'hui, ou la CGT, c'est au niveau national. On pense ouvriers français avant tout. Et les organisations de gauche, justement, est-ce qu'elles vont enfin incorporer ces hommes et ces femmes venus d'autres pays dans le monde d'après qu'elles dépeignent en ce moment à longueur de tribune ? Et surtout, est-ce qu'elles vont enfin seulement réfléchir à des stratégies concrètes et internationalistes pour mettre en place ce fameux monde d'après ?
On enchaîne avec un petit bilan du confinement en ce qui concerne la police.
Alors, on vous en a régulièrement parlé. La police a continué à tuer directement ou indirectement pendant le confinement et depuis le confinement en toute impunité, avec comme point commun systématique, pas de preuves, pas de témoins et pas d'enquête journalistique, à part recracher les communiqués de la préfecture, des flics ou des procureurs. Bien souvent même, le casier judiciaire de la victime est mis en avant comme pour justifier son statut de délinquant et donc sa mort. Alors dans le Canu Info du 4 mai, il y a 15 jours, on vous avait parlé des 10 morts du confinement. Depuis, il y a eu 3 nouveaux morts. Le 7 mai à Grenoble, les sales flics de la BST, la brigade spécialisée de terrain, sont intervenus sur demande du bailleur social qui gère un immeuble avenue de Constantine pour vérifier qu'un des logements était illégalement occupé. Et ce alors même que la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 31 juillet et que les expulsions des squats ne sont pas à l'ordre du jour. Le bailleur aurait tout simplement pu envoyer un huissier de justice pour constater l'occupation et ensuite lancer une procédure d'expulsion pour la fin de la trêve éventuellement. Mais non, ce sont bien les cow-boys de la BST qui sont venus foutre la pression aux deux occupants qui, visiblement, étaient recherchés, mais ça, le bailleur ni les flics n'en savaient rien. Ces deux occupants ont pris peur, ils ont tenté de s'échapper en descendant sur le balcon du dessous, sauf que l'un des deux est tombé et a fait une chute du 13e étage. Mort sur le coup, bien sûr. Il avait 36 ans. Le deuxième mort dont je voulais vous parler aujourd'hui est tout récent puisque c'était hier à Argenteuil. Un jeune homme de 18 ans a percuté à moto, sans casque, un poteau électrique. Il est mort à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Comme d'habitude, les versions divergent très largement. La BAC, immédiatement soutenue par le procureur, dit qu'elle a simplement croisé le jeune homme sans rien tenter, ni contrôle, ni interpellation, puisque, rappelons-le, Les courses-poursuites entre voitures de police et motards sont interdites, même si elles ont lieu régulièrement. Le motard se serait donc planté tout seul, et heureusement que les flics, d'ailleurs, étaient là pour prendre en charge la victime et appeler les secours. Version habituelle de la police, suivie par les procureurs. Sauf qu'un témoin dit que les flics ont barré la route au motard pour le contrôle, et probablement lui faire passer un sale quart d'heure, et que c'est ça qui a provoqué la panique puis l'accident. Tous les habitants du quartier et la famille accusent la police. Faut pas les prendre pour des cons. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'hier soir, vers 23h à Argenteuil, des abribus ont été saccagés, des poubelles ont été incendiées et même des tirs de mortier ont eu lieu. Avec pour conséquence un déploiement policier complètement disproportionné qui ont canardé à tout va, lacrymo, LBD-40, en veux-tu en voilà, mettant fin à ce début d'émeute en moins d'une heure. Alors, encore une fois, on n'oubliera pas, on pardonnera pas, on est à 13 tués depuis le début du confinement et depuis le début de cette crise. Ça fait toujours beaucoup trop.
Et maintenant, un petit point sur les CDD et l'intérim.
Oui, alors on a déjà beaucoup parlé, donc depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a multiplié les cadeaux au patronat sous prétexte de sauver l'économie. Alors avec l'état d'urgence sanitaire, Macron s'était déjà attaqué fortement au droit du travail, notamment en supprimant jusqu'à nouvel ordre les 35 heures et en supprimant des congés payés. Sans parler également du versement de 100 milliards d'euros pour sauver les entreprises et le chômage partiel pris en charge par l'État. Mais depuis, le patronat et de nombreux pseudo-experts économiques n'ont cessé de réclamer plus de faveurs de la part du gouvernement. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Vendredi dernier, l'Assemblée a voté une batterie de mesures pour assouplir le recours aux contrats à durée déterminée et en intérim. Alors, jusqu'à présent, les CDD ne pouvaient être renouvelés que deux fois et pour une durée maximale de 18 mois dans la plupart des cas. Mais avec l'adoption de ce nouveau projet de loi, le recours aux contrats les plus précaires est grandement facilité pour les patrons. Une simple convention d'entreprise pourra fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée, mais également fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats. Donc la mesure n'est censée être appliquée en théorie que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas c'est ce que dit Pénicaud, mais on a franchement du mal à croire que le gouvernement ne va pas l'inscrire définitivement dans la loi. Alors les travailleurs et travailleuses en contrat court, partiels ou intérimaires, qui pour beaucoup ont permis à l'économie de continuer à tourner pendant le confinement, vont encore une fois directement payer le prix de la crise. Déjà un nombre important de ces travailleurs viennent de se retrouver au chômage. Depuis le déconfinement, ce sont 49% des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Une nouvelle preuve que derrière les beaux discours, le monde d'après ressemble fortement au monde d'avant, mais en pire.
Et on enchaîne tout de suite donc avec une autre musique, c'est un rappeur, il s'appelle Vince, et son nom là, de cette chanson, c'est Égalité, et les paroles sont plutôt classe.
Ma vision, même quand tout part à la dérive, il le tourne à la dérision. Médisant les médias servent les puissants, méprisant les barreaux, nous les brisons. À qui la faute si c'est toujours les mêmes qui remplissent les prisons? L'État baisse les bras devant l'état des banlieues. L'avenir est noir, la justice est clémente pour les hommes de pouvoir. Quand il y a bavure, ça se termine en non-lieu. Pour que ça change, suffit pas de le vouloir. Le temps passe, on peut pas dire qu'on vit mieux. Ton chemin, on l'a tracé pour toi, selon ta classe, ton genre et ton milieu. La langue bien pendue car la vôtre est de bois, manipule l'opinion pour récolter des voix. Ils disent qu'ils le font pour sauver notre avenir, mais se foutent notre avis quand font voter des lois. T'as des diplômes, tu nettoies dès les toits. Si t'as des rêves, le système te les broie. On n'apprend pas tous à la même école, on grandit pas tous sous la même étoile. Une poignée de fortunés qui possède la moitié des richesses du pays. Début du mois déjà à découvert, tu galères à payer ton crédit. On se fait bouffer par des grandes entreprises, étouffe des affaires en cas de litige. Ça les arrangerait bien qu'on travaille jusqu'à nos 80 piges. On est loin d'être tiré d'affaire, ici faut se taire et taffer. L'égalité est un désir, mais son contraire, lui est un fait. Tout est à faire, et dans ce qu'ils disent, tout n'est pas vrai, tout n'est pas vrai. D'ici je vois l'horizon qui devient noir, mais nous font croire que tout est parfait. L'égalité, excusez-moi, mais votre concept, je me saisis pas. Moi je vois des hommes en dessous des ponts, et j'en vois d'autres au-dessus des lois. Puis j'en sais, puis je me dis que le bilan est dur à nuancer. Du mal à m'ambiancer. Je galère à pioncer toute la nuit, je fais le tour de la ville comme un ambulancier. Ouais, on sature, même quand on gueule, personne ne nous écoute. Ça fait longtemps que ça dure, j'écoute leur discours et ça me dégoûte. Malgré les coups, dans l'ossature, on a toujours su rester debout. On a beau se serrer la ceinture, c'est toujours dur de joindre les deux bouts.
Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon ».
Le travail, c'est pas la santé quand c'est lui qui l'abîme. Quand pour lui, t'as abandonné tous les rêves qui t'animent. On parle d'égalité entre ceux qui se gavent et tous ceux qui se privent.
Ouais.
La moralité, c'est que ceux qui se battent sont pas ceux qui survivent. Tellement de signes, mais l'État les ignore. Étudiants qui s'immolent, employés qui se tuent. Les fins de mois sont dures à galérer sans thunes. Y'en a qui vendent leur corps pour payer leurs études.
Entre misère et précarité, on n'est pas vraiment d'humeur à sympathiser. Sympathiser, nous parle pas d'égalité. Je te l'ai déjà dit, nous ici on sait pas qui c'est. Pensons des mensonges font plus de bruit que la vérité. Chacun pour soi, fuck la fraternité. On te fout dans une case dès la maternité. On lutte pour nos droits avant qu'on en ait plus. Ils disent que c'est nous qui sommes dans l'abus. On parle d'équité, mais tu vois Manu pendant que tes potes s'empiffent, les autres crèvent dans la rue. On taffe comme des robots, faut pas se fier au logo. Le seul qui sourit, c'est le patron d'Amazon. Victime et bourreau pour faire face des solos. Au bout du rouleau, vit la tête sous l'eau. Chacun nous porte le pas tous et moi. Apprendre la vie et puis enseigner. On partira sûrement le poing serré. Y'a que face à la mort qu'on sera tous égaux. C'est toujours la même, ressens-tu la feinte? Y'a longtemps qu'ils ont déclenché la crise. Maintenant c'est trop tard pour débrancher la prise. Nos vieilles habitudes elles sont dures à vaincre. Même sans voir le film on connaît déjà la fin. C'est pas par choix qu'on fait la grève de la faim. C'est la carotte avant le coup du lapin. Plus encore les plus faibles au fond du ravin. Dis-moi pourquoi, là-haut ça flambe. Pendant que ça crame en bas. Si pour monter faut te marcher dessus, certains n'hésiteront pas. Depuis petit nous mettent en concurrence, on humilie celui qui échoue. On nous parle d'égalité des chances, mais pas sûr qu'on ait la chance de l'avoir un jour. L'horizon noircit mes peurs, car ce monde noircit les cœurs. Le problème avec l'égalité, c'est qu'on la veut qu'avec nos supérieurs. Tant de gens meurent dans l'indifférence, mais quand c'est Johnny la France est en pleurs. Car si la vie n'a pas de prix, elles n'ont pas toutes la même valeur.
Voilà, vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi et c'était Vince Égalité et on enchaîne tout de suite avec un sujet sur la loi Avia.
Et oui, les députés ont adopté mercredi la proposition de loi de Laetitia Avia. Vous savez qui c'est, hein, Laetitia Avia ? C'est cette députée LREM, raciste et homophobe, qui lutte apparemment contre les propos haineux. Et oui, la loi adoptée oblige désormais le retrait en une heure concernant les propos incitant au terrorisme et en 24 heures... le retrait des propos discriminatoires, injurieux ou faisant l'apologie de crimes contre l'humanité. Profitant donc d'un hémicycle quasiment vide, le passage en secret de la loi Avia porte un coup supplémentaire à la liberté d'expression et renforce encore un peu plus, dans le sillage de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, l'autoritarisme policier de l'État Macron. Et en ce qui concerne les propos à caractère terroriste, vous devinez, vous imaginez bien, en tout cas vous le devinez, que c'est la police qui sera la seule en mesure de les signaler. Et oui, et dans ce cadre, eh bien, pas très difficile de voir que les pages militantes ou les publications qui relaient les vidéos de violences policières seront vite les premières à être signalées comme apologie au terrorisme ou quelque chose comme ça. Et hop, aussi publié, aussitôt effacé. C'est arrangeant, n'est-ce pas? Mais non, comptez sur nous. Aucune loi ne nous empêchera de continuer à montrer le vrai visage de la police.
Et on enchaîne tout de suite avec le droit de manifester après cette première semaine de déconfinement.
Bon, bah si on en doutait, c'est pas demain la veille qu'on va avoir le droit de manifester. Alors déjà, le 11 mai, jour de déconfinement, il y a eu plusieurs tentatives un peu partout en France, parfois juste de simples rassemblements, à pas nombreux, mais quasiment tous ont été réprimés. Alors quelques exemples très rapides. Hein. À Paris, une quinzaine de gilets jaunes se sont rendus place de la République, ils ont tous pris 135 euros d'amende. Dans le 93, une chaîne humaine à distance sanitaire contre les violences policières rassemblant 400 personnes a été mise immédiatement sous pression, poussant quasiment certains des participants dans la scène. C'est vrai, hein. À Rennes, une centaine de personnes ont essayé de manifester. Il y a eu 38 personnes qui ont pris 135 euros d'amende. À Marseille, 50 personnes auraient tenté de défiler le long de la Canebière. 5 personnes ont fini en garde à vue pour refus de se disperser. Voilà, de manière non exhaustive pour le 11 mai. Samedi dernier, les Gilets jaunes appelaient à une nouvelle journée de mobilisation nationale. Directement, tout un tas de préfectures ont interdit les manifs par arrêté préfectoral, comme à Toulouse ou à Marseille. Alors, petite anecdote très rigolote pour Toulouse, des commerçants avaient prévu une contre-manif si celle des Gilets jaunes avait lieu, soutenue par le maire LR de la ville, Jean-Luc Moudinque, qui avait prévu de s'y rendre avec ce cri du cœur. C'est notre dernière chance pour éviter que les manifestations reprennent tous les samedis. Plus de casseurs dans notre ville. Bon, les Gilets jaunes ont quand même tenté une manifestation. La dispersion a été immédiate. Beaucoup d'amendes pour les récalcitrants, pas mal de coups de matraque, des lacrymo, avec une présence ultra-massive des policiers et de leurs instruments de contrôle, et même, pour certains, une interdiction du port du masque. Pour certains manifestants, c'est quand même plutôt rigolo, ça doit faire un peu bizarre quand ta flic te dit d'enlever ton masque en manif.
Décidément, on ne sait plus s'il faut le mettre ou pas, quoi.
Et donc petite transition vers le local lyonnais, puisqu'il y a également eu une tentative de rassemblement, même pas de manif, hein, à 14h place Lyautey ce samedi, avec la plupart des gens qui étaient masqués, qui respectaient les distances de sécurité. Les contrôles et les fouilles des sacs de petits groupes au tout début par les flics ont eu lieu et ont été assez nombreuses. Les flics eux-mêmes, sans masque ni respect des distances sanitaires, rapidement, les flics ont nassé la place avec visiblement une BAC très agressive. Il y a eu au moins deux interpellations, dont une bien musclée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu deux comparutions immédiates aujourd'hui, dont une pour violence aggravée et participation à manifestation illégale.
Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, ce qui s'est même passé, c'est qu'après cette fameuse nasse, stratégie assez étrange des flics, mais à croire qu'ils avaient un peu envie de se défouler, ils ont laissé plusieurs personnes sortir et ça a fini par partir en manif dans la presqu'île, à une ambiance très particulière où rue de la République, blindée de gens qui vont consommer des files énormes devant Zara, Starbucks, etc. Et les manifestants qui s'amusent à faire des tours entre ou qui se dispersent dans la foule et qui jouent au jeu du chat et de la souris avec les flics. Mais ça a encore fini avec quelques interpellations et je crois que le bilan total, c'était 4 interpellations pour ce samedi, voilà.
Ok, et ben on continue avec le local pour parler de Prestalis à Vénissieux.
Oui, alors je tiens à préciser que ce sujet, c'est un résumé d'un article d'Expression Vénissieux que vous pouvez aussi retrouver sur Rébellion. Alors oui, c'est 110 emplois qui sont menacés à la SAD de Vénissieux en ce moment, 512 en France au total. Une entreprise qui assure la distribution de la presse nationale. Alors, les salariés ont entamé depuis lundi 11 mai une grève totale reconductible, paralysant notamment la parution des quotidiens et des magazines nationaux. Alors, cette société, c'est la première société de messagerie de presse en France, hein, Prestalis donc, qui a déposé le bilan fin avril. Elle distribue environ 75% de la presse en France. Et elle est actuellement victime des éditeurs de magazines qui veulent abattre le système coopératif qui existait jusqu'alors et qui est né après la Seconde Guerre mondiale, qui mutualise la distribution et du coup notamment les coûts. Bref, elle souhaite adopter un système plus libéral et plus marchand. Alors, située dans la zone d'activité de l'Arsenal à Vénissieux, la SAD est donc occupée depuis lundi 11 mai par ses salariés. Si les actionnaires, le gouvernement et les juges pensent que les ouvriers du livre vont se laisser faire, ils se trompent lourdement, justement, confie Guillaume Dumoulin, délégué syndical central CGT, qui est également secrétaire de l'Union locale de Vénissieux. Et justement, ce délégué et tous les salariés plaident pour le maintien de cette structure qui est assez unique et assez originale, hein. Il annonce que tant qu'il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas non plus de presse quotidienne, nationale, ni de magazine distribué. Hein. Ils veulent montrer qu'ils sont indispensables dans cette distribution. Alors, il y a eu un rassemblement en soutien qui a eu lieu vendredi dernier, mais il faut rester assez vigilant quant à l'évolution de la situation, d'autant qu'en ces temps de crise économique, le nombre d'entreprises locales en faillite va augmenter forcément, et les tribunaux de commerce seront sûrement plus prompts à accepter les demandes de liquidation des actionnaires et des propriétaires.
Alors, on va finir avec un petit agenda, à commencer par l'événement de ce soir à 20h18, nommé « Du bruit pour les prisonniers et prisonnières », que ce soit dans les prisons ou dans les centres de rétention. Ça consiste alors soit à crier depuis votre fenêtre ou votre balcon, soit à aller dans la rue, soit à faire des pancartes. Le rendez-vous, c'est à 20h18 et il y a un article dédié sur Rébellion pour en savoir plus. Et puis, notre petit rendez-vous.
Alors d'autres rendez-vous, oui, puisque l'espace communal de la Guillotière a rouvert ses portes depuis le déconfinement, donc situé au 45 rue Béchevelin, et mercredi, il y a le marché rouge, donc ce marché de légumes qui permet de récupérer des légumes à 1 euro ou moins si t'as pas de thune, ou plus si t'en as un peu plus. Donc mercredi à 18h et tous les lundis et jeudis de 17h à 19h, eh bien il y a une permanence aussi, notamment pour les brigades solidaires, hein, qui tournent et qui filent de la bouffe aussi, qui font des maraudes, et le lavomatique gratuit, entre autres choses.
Voilà, alors il est 19h48, ce qui nous laisse le temps de désinfecter le studio avant de passer la main à Blasphem FM. Merci de nous avoir retrouvés, c'était cool de vous retrouver en studio et puis à la semaine prochaine.
Grave. Roi de la route, grâce
modèle qu'un taureau d'injustice. Le roi est nu, on m'a trahi, je suis très déçu. Yeah.